Radio Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Fayulu, Sesanga, Matata Ponyo et Katumbi s'engagent à unir leurs efforts pour un Congo fort, prospère et digne. Ils ont signé une déclaration commune dans ce sens hier à Lubumbashi, occasion pour l'archevêque métropolitain de demander aux signataires de penser aux intérêts du peuple. Début hier à la prison centrale de Bounia de l'opération d'enrôlement au chef-lieu de l'Ituri, plus de 900 détenus ont été identifiés pour cette opération qui va durer 2 jours, a déclaré le bureau provincial de la CENI. Et puis, à Goma, plus de 200 jeunes entrepreneurs, 99 petites et moyennes entreprises établies et des centaines de femmes micro-entrepreneurs ont directement été appuyées par le gouvernement congolais à travers le projet PADEM PME. Pour en parler, nous recevons Jean-Luc Moilou, chargé de communication de ce projet. Madame, Messieurs, bonjour. Martin Fayulu, Delice Essanga, Matata Ponyo et Moïse Katumbi ont signé hier à Lubumbashi une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à unir leurs efforts pour un Congo fort, prospère et digne. À cette même occasion, l'archevêque métropolitain leur a demandé que les signataires de cette déclaration tiennent compte des intérêts de la population dans toutes leurs démarches. Plus de détails avec Jean Gandou Kabongo.
Une fois la déclaration commune lue et signée par les différents leaders politiques présents, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, par la bouche de M. l'abbé Kalaba, qui devait clôturer cette cérémonie par la prière, a demandé aux leaders présents de tirer les leçons de Genève, car dans l'histoire politique de notre pays, l'actuel regroupement politique n'en est pas le premier. Augustin Matata Ponyo a salué ce souhait émis par le prélat catholique.
C'est une interpellation qui s'adresse à l'ensemble des signataires de ces documents pour que cet engagement que nous avons pris solennellement dans cette salle, que cette signature soit porteuse d'espoir et qu'elle soit aussi la matérialisation d'une conviction noble et patriotique.
Pour Martin Fayulu, il est temps d'agir.
Pour répondre à l'appel de l'archevêque, nous devons nous oublier. Nous devons tuer les moi qui existent en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons conduire ces pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort, digne et prospère.
Moïse Katumbi a quant à lui indiqué que le peuple souffre et il faut que les choses changent.
Nous devons oublier le passé. Nous devons voir l'avenir, la souffrance de cette population. Si nous sommes ici, c'est pour défendre notre propre population, pour un Congo meilleur de demain.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Par ailleurs, ces 4 leaders de l'opposition politique ont clôturé leurs assises organisées hier à Lubumbashi. Comme dit précédemment, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Delice Essanga et Matata Ponyo ont signé chacun une déclaration reprenant un certain nombre d'exigences pour un processus électoral apaisé et inclusif. On écoute à ce sujet Olivier Kamitatou, directeur de cabinet de Moïse Katumbi. Il en fait la lecture au micro de Jean Gandou.
Nous exigeons la désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI, la révision de la loi électorale, la recomposition de la Cour constitutionnelle, la fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents, la fin des arrestations arbitraires, hommes politiques, journalistes, activistes de la société civile, et la libération de tous les prisonniers politiques. La fin des tueries dans le Grand Kivu, en Ituri, dans le Grand Katanga, dans le Grand Bandundu et à l'est de Kinshasa. La conduite urgente d'un audit externe des opérations d'identification et d'enrôlement en cours en vue de la production d'un fichier électoral intègre reflétant les réalités démographiques de chaque circonscription électorale. La présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral.
Notons que ces leaders politiques ont aussi pris l'engagement d'unir les idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans le délai constitutionnel des élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Rendons-nous en Ituri, je vous l'ai dit dans les titres. L'opération d'enrôlement a débuté vendredi à la prison centrale de Bounia, chef-lieu de la province. Plus de 900 détenus, dont des prévenus et des condamnés, ont été identifiés pour cette opération qui va durer 2 jours, a déclaré le bureau provincial de la centrale électorale. Par contre, ceux condamnés à des lourdes peines et des militaires ne sont pas concernés. Les bénéficiaires saluent l'effectivité de ce processus pour le respect de leurs droits de vote. Le point avec Ezekiel.
9 machines des 3 centres d'enrôlement, Murongo, Nyakasanza et Twendeleye, dans la ville de Bounia, ont été déployées par la CENI pour faciliter le processus d'enrôlement des détenus à la prison centrale de Bounia. Selon le secrétaire provincial de la CENI, 9 opérateurs de saisie ont été affectés pour mener cette opération dans les délais impartis. Les prévenus ainsi que les condamnés à des peines légères qui sont ciblés saluent cet acte des autorités de la CENI qui leur permet d'accomplir eux aussi leurs devoirs civiques. Lucie Braille est en détention depuis le mois de mars, elle vient d'avoir sa carte d'électeur.
Je me sens vraiment à l'aise d'avoir reçu ma carte. C'est quand même notre droit, nous les Congolais. Ça va m'aider beaucoup. Même ici, chez nous, c'est en prison. On demande toujours la carte. Je suis donc heureuse. La prison n'est pas bonne pour nous, malgré des problèmes, mais ça passe toujours.
Le secrétaire provincial de la CENI a déclaré que les détenus des prisons de Mahagi, Aru et Mambasa se sont déjà fait enrôler. Jimmy Anga.
Aru l'a déjà fait, Mahagi l'a fait, Mambasa l'a fait. Et nous, dans la ville de Bounia, tellement qu'il y avait l'engouement, on avait préféré d'abord gérer l'engouement.
L'opération d'enrôlement s'est clôturée officiellement le 11 avril dans la province de l'Ituri, où plusieurs bureaux d'inscription sont déjà fermés. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Sud-Kivu, insécurité à Misisi, cité minière située à l'extrême sud du territoire de Fizi. Des échanges de tirs ont opposé vendredi matin des éléments de la police nationale aux miliciens Mai Mai Biloze Bishambuke en plein centre de cette cité. La société civile ne signale aucun dégât matériel ni perte en vie humaine enregistrée. Cependant, un milicien Mai Mai détenu au cachot de la PNC a été libéré par les assaillants. Récit des faits avec Fiston Goma Mayabala.
L'incident s'est produit lorsqu'un groupe d'éléments Mai Mai Biloze Bishambuke s'est présenté pour libérer leurs compagnons d'armes détenus au cachot de la PNC. Ces assaillants sont parvenus à cette libération après échange de tirs alors que le prévenu était détenu pour vol qualifié dans la cité. Jeudi dans la soirée, un agent de la société de télécommunications Vodacom a été attaqué à Misisi par des bandits armés et tous les biens dont les téléphones, une mallette et de l'argent ont été emportés. Ces cas d'insécurité ont refait surface depuis un mois, signale le secrétaire du village de Misisi, Abedi Germain.
Ce sont les gens qui utilisent les armes à feu, telles que les revolvers. Dans ces derniers temps, on utilise beaucoup de revolvers. Et ce sont des appareils qui se trouvent avec les militaires. Il y a une réunion de sécurité qui est prévue de se tenir lundi. Là, on va prendre beaucoup de mesures sur ça.
Le 4 avril dernier, les FARDC du 3305e régiment avaient arrêté un Burundais avec une arme AK-47 dans cette cité de Misisi, secteur d'Enganja. Le présumé criminel a été transféré avec son épouse vers le quartier général de cette unité de FARDC à Lulimba pour la suite de la procédure. Douvira Fistongoma Mayabala, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, plus de 4000 ménages des déplacés internes du conflit dit de Kamuina-Nsapu, conflit qui avait sévi dans l'espace Grand Kasaï entre 2016 et 2017, se trouvant encore dans la province du Kwilu, ont bénéficié d'une assistance humanitaire jeudi dernier dans la ville de Kikwit. Il s'agit des vivres et non-vivres, dont du gouvernement central à travers le ministère des Affaires sociales et Solidarité nationale. Ce dernier a mis à la disposition de la fondation André Kadima une somme de 50 000 $ américains afin d'assister ses déplacés en partenariat avec la Caritas diocèse de Kikwit. Des détails avec Irène Boma.
Cette assistance humanitaire qui a été distribuée jeudi à Kikwit à ses déplacés, victimes des exactions du conflit Kamuina-Nsapu, est essentiellement constituée d'un lot important de vivres dont des sacs de riz, des sacs de maïs, des bidons d'huile et bien d'autres, ainsi que de non-vivres comme des vêtements, des outils aratoires, des semences, des machines à coudre, des fournitures scolaires, des kits solaires, des abris, des poulaillers installés, des médicaments et autres. C'est une réponse du gouvernement congolais mêlée à la souffrance de ses compatriotes qui vivent les calvaires depuis plusieurs années, a expliqué l'abbé coordonnateur de la Caritas diocèse de Kikwit, Jean-Marie Ouattou. Ouf de soulagement pour ces sinistrés qui longtemps croyaient être abandonnés à leur triste sort. Tout en remerciant leurs bienfaiteurs, Abraham Kisenga, représentant de ces derniers à Kikwit, a à cette occasion plaidé pour ce qui suit.
Ces déplacés que voici, ils ont besoin de la maison et non d'un poisson. Nous avons la rivière. S'ils peuvent aller pêcher eux-mêmes, ils seront à l'aise que d'attendre un poisson.
Le maire de la ville de Kikwit, Abengiama, présent à cette cérémonie de remise de ses biens, a remercié le gouvernement congolais pour ses gestes de solidarité si remarquables. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Direction Matadi, au Congo central. Une trentaine d'éléments de la police ont visité hier les sièges de deux grands médias du Congo central, à savoir la RTNC et OREB Télévision. Cette visite s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes dénommées Journée d'amitié entre les forces de la police nationale congolaise et les journalistes, journée qu'organise l'UNESCO en collaboration avec l'Union nationale de la presse congolaise, section Congo central. Selon Joseph Potopoto, spécialiste en charge des questions de communication et information à l'UNESCO RDC, cette activité vise un rapprochement entre journalistes et policiers en vue d'instaurer un climat de confiance entre ces deux corps. Le point avec Nana Plurish Mambo.
Il s'agit d'une visite des lieux de travail dites réciproques, car au cours de la visite de ces jours, les éléments de la police nationale congolaise se sont rendus notamment à la RTNC et à OREB Télévision. Hier jeudi, c'est la délégation des journalistes qui a été reçue à l'état-major commandement de la police du Congo central. Cette activité a été recommandée par les membres de ces deux corps à l'issue d'un programme de formation sur le respect de la liberté de la presse face aux impératifs du maintien de l'ordre public, que l'UNESCO a organisé en Matadi au mois de mai 2022 à l'intention des journalistes et policiers. Pour Joseph Potopoto, en charge de communication et information à l'UNESCO RDC, cette initiative vaut son pesant d'or.
Ces deux activités ont permis donc aux deux corps professionnels de pouvoir se rapprocher davantage et avoir des relations harmonieuses.
Pour clôturer en beauté ces visites, ce samedi, une rencontre de détente de football sera organisée entre les policiers et les professionnels des médias de la ville portuaire au stadium d'Amar de Matadi, suivi d'un barbecue à l'hôtel La Fleur de Matadi. La prochaine étape est l'établissement d'un protocole d'entente pour l'encadrement des journalistes lors des manifestations. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Dans l'actualité, notez aussi que le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement du processus de la troisième vague de mise à la retraite des agents éligibles des services publics. D'après la note rendue publique le 12 avril, tous les services publics de l'État au niveau national sont concernés. Le chronogramme de traitement des dossiers des agents éligibles à la retraite commence le jeudi 20 avril et doit se clôturer le 13 mai prochain. Plus de 30 000 agents sont concernés par cette troisième vague de retraite. Explication avec Fulbert Baloulagué.
Tout d'abord, cette note est adressée aux secrétaires généraux de l'administration publique, aux inspecteurs généraux chefs de service de l'administration publique et aux directeurs généraux des services publics de l'État. Dans celle-ci, le ministre fait un rappel que plusieurs services continuent d'autoriser ou permettent à certains agents de continuer à prester malgré leur mise en bonne et due forme à la retraite. S'agissant alors de la prochaine vague de retraités, le vice-ministre rappelle que toute communication d'information qui s'avérait inexacte, surtout celles liées à la dernière fonction exercée par l'agent et où sa situation en activité ou décédée expose à des sanctions. Ainsi, pour garantir la transparence dont requiert le processus, le vice-ministre demande aux responsables des services publics d'afficher les listes dans les administrations respectives, tant au niveau des services centraux que déconcentrés, pour recueillir les observations liées à la position administrative des agents. Ils doivent aussi associer à l'analyse des listes les responsables des services déconcentrés concentrés en province et dans les entités territoriales décentralisées. Pour rappel, les deux premières vagues de retraités ont été effectives en septembre et décembre 2022, mettant à la retraite un peu plus de 10 900 agents.
Province du Maniema, 25 étudiants en médecine de l'université de Kindu ayant fini leurs études l'année passée ont prêté serment hier devant le président provincial de l'Ordre des médecins et autres autorités administratives et sanitaires de cette province. La cérémonie de cette prestation de serment s'est déroulée dans la salle du cercle privé de la SNCC. C'est un reportage de Florence Kizalunga.
Je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je garderai à mes maîtres le respect et la reconnaissance qui leur sont dus.
C'est en ces termes que ces nouveaux médecins se sont engagés à travers les serments d'Hippocrate à servir toute la communauté sans distinction aucune. Le président de l'Ordre des médecins les a exhortés à un travail bien fait. Docteur Charles Omesumbu dit attendre voir des médecins qui vont préserver la vie humaine.
Aux nouveaux médecins, ils doivent respecter scrupuleusement le serment qu'ils ont prêté ce jour. Donc, je m'attends à avoir des médecins qui vont préserver la vie. Ce ne sont pas des médecins qui vont supprimer la vie. Ils doivent entretenir de bonnes relations de confraternité. Ils doivent soigner leur image dans la société. Poser des actes qui ennoblissent notre société, pas des actes qui dégradent notre profession. C'est qu'ils sont aujourd'hui médecins, ils doivent continuer à apprendre de tout le monde.
Signalons que tous ces médecins ont en même temps été inscrits au tableau de l'ordre et chacun a reçu son numéro d'ordre. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité, Afrique Monde.
Nous sommes au Tchad. Le programme alimentaire mondial PAM est à sec et a besoin d'urgence des fonds supplémentaires des pays donateurs. Autrement, il pourrait arrêter son aide aux centaines de milliers de réfugiés et déplacés à partir de mai. L'alerte a été lancée vendredi. 2023 est une autre année très difficile. Nous n'avons absolument aucun financement à partir du mois de mai prochain pour les réfugiés et les personnes déplacées. C'est vraiment catastrophique, explique Pierre Honorat, directeur pays du PAM Tchad. L'agence a besoin pour les 6 prochains mois de 142,7 millions de dollars afin de poursuivre son assistance aux réfugiés déplacés et aux Tchadiens victimes du changement climatique.
L'invité.
À Goma, plus de 200 jeunes entrepreneurs, 99 petites et moyennes entreprises établies et des centaines de femmes micro-entrepreneurs ont directement été appuyées par le gouvernement congolais à travers la première phase du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM PME, avec les fonds de la Banque mondiale. Le chargé de communication de ce projet est en mission à Goma pour visiter les bénéficiaires de ce projet et évaluer les résultats qu'ils ont atteints. Jean-Luc Moilou partage ses constats dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Jean-Luc Moilou, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes à Goma et vous visitez différents entrepreneurs qui ont bénéficié du projet PADEM PME. Quels sont les constats? Comment ils s'en sortent?
Ce que nous avons constaté dans le cadre de cette mission de supervision et de redevabilité, c'est que le travail qui a été mis en place par le gouvernement congolais avec l'appui de la Banque mondiale est en train de porter ses fruits. Nous sommes en train de visiter pas seulement les jeunes entrepreneurs qui sont accompagnés dans le cadre du projet COPA, mais également les PME établies à potentiel de croissance, et nous visitons aussi les femmes micro-entrepreneurs qui ont été formées et qui sont en phase de réception ou d'obtention des équipements de production tels que le projet l'a prévu. Ben, notre constat est que le projet évolue bien. Il y a eu une mission de l'antenne provinciale qui est en train de renseigner tous les indicateurs du cadre des résultats. Vous savez que ce projet devait servir non seulement à créer des entreprises, mais également à créer des emplois, à créer une production. Hein, c'est un projet qui devait servir à renforcer l'écosystème entrepreneurial. Et aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que nous sommes en train de cocher toutes les cases qui étaient prévues, que ce soit en termes des quantités, mais également de développement, en termes des qualités, en termes d'accès aux standards les plus élevés en entrepreneuriat.
Je vous retrouve chez un entrepreneur qui évolue dans les secteurs de l'habillement, quel impact les projets a apporté à son travail?
Ici, nous sommes à la gare routière de Goma. Je peux citer le nom de l'entreprise, c'est pas de la publicité, c'est Barouvi qui est dans le prêt-à-porter, l'habillement, la confection, la mode, ainsi de suite. Vous pouvez voir vous-même comment les rayons sont remplis de vêtements de qualité, un travail de bonne facture. J'ai pu recueillir son histoire. C'est un jeune entrepreneur qui, il y a une année, n'avait même pas une boutique. Il avait l'ambition de réussir. Il a commencé au plus bas de l'échelle en recourant à la sous-traitance. Mais aujourd'hui, il a un espace de production, nous l'avons visité. Il a acquis des équipements dans le cadre de ce projet, mais il a aussi cet espace d'exposition ici au niveau de la gare routière de Goma. Et le constat, vous pouvez le faire vous-même, c'est des standards qui sont élevés. Cette jeune entreprise, parce qu'au-delà de la personne, c'est surtout la jeune PME, comme nous sommes en train de voir, Barouvi a coché les cases création d'entreprise, formalisation, professionnalisation, création de l'emploi. Et aujourd'hui, il est même dans une perspective de croissance et de développement. C'est exactement les éléments que nous souhaitions avoir à travers ce projet. Et déjà, il est préparé à pouvoir assumer son devoir de citoyen par le paiement des impôts, par la déclaration de tout ce qui est dû à la communauté. Parce que ne l'oublions pas, ce travail de redevabilité, c'est également vis-à-vis de toute la communauté nationale qui a financé ce projet à travers ce prêt consenti par la Banque mondiale.
Et est-ce qu'il y a eu des défis rencontrés par certains jeunes et femmes accompagnés dans le cadre de ces projets?
Effectivement, il y a des défis. Déjà, cette approche de promotion de l'entrepreneuriat est nouvelle. Ça faisait quand même des années que nous avions perdu les bonnes habitudes, que nous avions perdu cette culture de la norme, cette culture de la régularité. En termes de formalisation, c'était assez difficile parce que, bon, en même temps, l'État, nous sommes le gouvernement, nous ne pouvons pas prendre l'argent public et le jeter auprès des gens qui ne sont pas identifiés ou qui n'opèrent pas selon la loi. Donc le travail de formalisation a été un grand défi, mais avec le renforcement que nous apportons et avec, notons-le, la révolution entrepreneuriale, la révolution économique qui vient d'être posée par le gouvernement à travers les deux lois sur la promotion de l'entrepreneuriat. Il y a la loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et les start-up et puis la loi sur l'artisanat. Nous avons mis en place les conditions pour l'éclosion d'un entrepreneuriat professionnel, un entrepreneuriat compétitif et de qualité.
Monsieur Jean-Luc Moilou, je rappelle que vous êtes en charge de la communication au niveau du projet PADEM-PME. Merci.
Merci madame.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.